Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de textes tirés des médias suivants. La presse et le devoir. Au programme, des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient. Des murs qui ressuscitent. Et Mistral gagnant, Mistral perdant. Bonne écoute.
Des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 1er avril 2023 dans la presse. De quelle dangereuse fièvre les pharmaciens sont-ils atteints? Ce n'est pas une blague. Certains exigent des honoraires de plus de 100 000 $ pour un seul patient. Par exemple, une pharmacie a prélevé des honoraires annuels de plus de 140 000 $ pour une seule prescription de Procysbi, un médicament qui retarde l'apparition de l'insuffisance rénale chez les patients atteints d'une maladie rare. Un autre professionnel a facturé des honoraires annuels de 160 000 $ à un patient qui avait besoin de Trikafta, un traitement pour la fibrose kystique. Précisons bien, il s'agit seulement des honoraires du pharmacien pour ses ordonnances dont la facture totale peut atteindre un demi-million de $. Ces chiffres exclusifs nous ont été fournis par le Bureau québécois de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, ACAP, qui a mené une enquête en 2022 sur cette inquiétante tendance. On veut bien croire qu'il s'agit de médicaments onéreux qui doivent être manipulés avec soin, parfois dans un environnement stérile, que les pharmaciens doivent assumer le risque en cas de perte ou de contamination. Mais franchement, des honoraires aussi élevés, ça frise le délire. Il est plus que temps que Québec s'en mêle, car la pérennité même de notre système d'assurance médicalement universel est en péril. Ces cas spectaculaires d'honoraires excessifs sont symptomatiques du mal profond qui ronge le système d'assurance médicaments du Québec. Ils démontrent à quel point les assurés du privé sont victimes d'une injustice systémique par rapport à ceux couverts par la RAMQ. Pour l'ensemble des médicaments vendus au Québec, les honoraires moyens des pharmaciens sont de près de 18 $ au privé par rapport à environ 9 $ au public où les honoraires sont fixes. C'est carrément le double. Cela fait en sorte que le coût global des médicaments est 18,8% plus élevé pour les assurés du privé que ceux de la RAMQ. Au total, le privé paie donc 750 millions de trop chaque année, loin d'une bagatelle. Or, les médicaments onéreux, de plus en plus fréquents, exacerbent le problème. Prenons les traitements qui coûtent plus de 10 000 $ par année. Les pharmaciens se permettent d'imposer des honoraires moyens de 328 $ par prescription aux assurés du privé, selon l'ACAP. C'est 40 fois plus que les honoraires facturés aux assurés de la RAMQ. Ce grand écart est aussi disgracieux qu'inadmissible. L'écart découle du fait que les assureurs privés sont menottés. Ils sont tenus de rembourser tous les médicaments couverts par le régime public, mais ils n'ont aucun contrôle sur les honoraires des pharmaciens, contrairement à la RAMQ, qui négocie un prix fixe. Plus Québec négocie serré, plus les pharmaciens se reprennent du côté privé. Cet interfinancement est malsain. Les pharmaciens répliqueront que c'est le libre marché qui s'applique du côté privé, que les assurés peuvent magasiner. Mais en réalité, les assurés sont peu sensibilisés au prix des médicaments, dont ils ne paient que 10 ou 20% à la caisse. Sans compter que leur contribution est plafonnée à 1161 $ par année. Au-delà de ce montant, les assureurs ramassent toute la facture, qu'ils n'ont pas tellement avantage à réduire, puisque leurs frais sont établis en pourcentage du montant des réclamations. plus les réclamations montent, plus les primes des assurés grimpent. Mais encore là, l'impact n'est pas si visible, car la prime est prélevée sur leur paie et l'employeur en absorbe souvent une partie. Quant aux employeurs, ils n'aiment pas trop se mettre le nez dans les questions de santé de leurs employés, ce qui explique leur manque de mobilisation. Au bout du compte, la concurrence dans le domaine de la pharmacie est un mirage, surtout pour les médicaments onéreux dont la distribution est contrôlée par une poignée de pharmacies qui demandent la lune. Alors, quel est le remède contre les honoraires excessifs? Une plainte à l'Ordre des pharmaciens du Québec? Ne comptez pas trop là-dessus. Depuis 10 ans, l'Ordre n'a sanctionné que 2 pharmaciens pour des honoraires déraisonnables. Une action collective contre les pharmaciens? C'est déjà en cours, mais le processus pourrait prendre des années. Fondamentalement, c'est à Québec de revoir le système. 2 options sont envisageables. Tout d'abord, le gouvernement pourrait plafonner les honoraires des pharmaciens en établissant une grille qui tiendrait compte de l'intensité du travail requis. Mais cela risque d'envoyer un mauvais signal. Tous les pharmaciens seront tentés de s'accoter sur ce plafond, ce qui fera monter les prix encore plus. Rendu là, pourquoi ne pas imposer les mêmes honoraires au privé et au public? Les pharmaciens crieraient à la nationalisation, mais au moins ce serait enfin équitable. Autrement, le gouvernement pourrait permettre aux assureurs privés de négocier des ententes avec les pharmaciens, comme cela se fait ailleurs au Canada. Et ça marche. En Ontario, les prix des médicaments sont 20% inférieurs. En ce qui concerne les médicaments onéreux, on doit aussi se demander si la facture ne devrait pas être toujours assumée par le public et si le traitement ne devrait pas être offert à l'hôpital pour limiter les risques de perte. Chose certaine, il faut agir. Sinon, le système va craquer. Le poids des primes devient si lourd que certains régimes privés songent à se faire harakiri. Par exemple, lors d'une récente consultation menée pour le programme d'assurance des retraités du syndicat des cols bleus regroupé de Montréal, près du tiers des personnes concernées, 31%, ont voté pour son abolition. Il faut dire que la prime de ceux qui ont moins de 65 ans et qui sont donc forcés par la loi d'adhérer au régime s'élève à 3 048 $ par année. C'est 4 fois plus que celle de la RAMQ, qui n'est que de 710 $, parce que Québec subventionne une partie de la facture à même son fonds consolidé. Même si les régimes privés ont une couverture un peu plus large, il devient tentant pour les assurés de mettre fin à leur régime afin de migrer vers la RAMQ. D'ailleurs, 151 000 assurés se sont ajoutés au régime public depuis 10 ans, une augmentation 3 fois plus forte qu'au cours des 10 années précédentes qui découlent en partie de l'abandon par des employeurs de leur régime d'assurance collective. Ce mouvement va s'accentuer au cours des prochaines années si Québec ne fait rien. Alors même si le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a plein son assiette avec le projet de loi pour améliorer l'efficacité du réseau de la santé, il doit aussi s'attaquer aux honoraires déraisonnables des pharmaciens. C'était « Des honoraires de 100 000 $ pour un seul patient », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 1er avril 2023 dans la presse.
Des murs qui ressuscitent. Un texte de Mario Girard, paru le 9 février 2023 dans la presse. Hubert Sassy est un véritable turbo. Après une trentaine d'années à la tête d'Éducalcool, l'homme met aujourd'hui son énergie légendaire au service d'une multitude de conseils d'administration et d'organismes communautaires. Il m'en a fait la liste et j'étais étourdi. Mais il lui fallait plus encore. Un projet qui allierait son amour du patrimoine et ses élans créatifs. Il a trouvé tout cela entre les murs de l'église Sainte-Madeleine d'Outremont. Ce lieu, qui souffre de la flamboyance de ses consoeurs Saint-Viateur et Saint-Germain, cache de véritables trésors. Les fidèles qui assistent aux messes savent-ils que sous la peinture insignifiante des murs et des plafonds sommeille de splendides tableaux et œuvres murales du peintre d'origine italienne Guido Nincheri? Surnommé le Michel-Ange de Montréal, cet artiste, débarqué à Montréal en 1914, a décoré plusieurs églises du Québec, dont Saint-Léon-d'Ouestmont, Saint-Viateur, Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Rédempteur, mais aussi d'autres lieux comme le Château du Frêne. Il est aussi l'auteur des œuvres murales de l'église Notre-Dame de la Défense dans la Petite Italie. Un des tableaux de l'abside a ceci de particulier qu'il offre la présence de Mussolini. L'artiste, qui a étudié la peinture à Florence, a illustré le traité entre le Saint-Siège et l'Italie signé par le fondateur du fascisme et le pape en 1929. Accusé de fascisme au début de la Seconde Guerre mondiale, Nincheri a été interné comme d'autres compatriotes à Petawawa. Sa femme a réussi à le faire libérer au bout de 3 mois en prouvant, croquis à l'appui, que son mari avait été forcé d'ajouter la figure de Mussolini dans son œuvre murale. En 1924-1925, au moment de construire Sainte-Madeleine d'Outremont, on a évidemment pensé à lui pour décorer les lieux. Sainte-Madeleine était en quelque sorte la paroisse des prolétaires d'Outremont, explique Hubert Sassy. Elle était surtout fréquentée par des ouvriers, notamment les travailleurs qui ont construit le chemin de fer de la gare de Triage. De 1932 à 1934, Nincheri a peint les murs et les plafonds de Sainte-Madeleine. Dans le transept nord, il a créé une série de tableaux installés selon la technique du marouflage, toile collée au mur. Il a aussi conçu un ensemble de vitraux d'une beauté à couper le souffle qui, fort heureusement, ont résisté au temps. Il faut le dire, le résultat était magnifique, mais plutôt chargé, ajoute Hubert Sassy. Une trentaine d'années après la réalisation de l'œuvre de Nincheri, l'Église catholique a connu une véritable révolution avec la tenue d'un concile œcuménique au Vatican communément appelé Vatican II. De 1962 à 1965, des centaines de membres influents ont réfléchi à des moyens de rapprocher cette religion de ses fidèles qui vivaient alors un énorme progrès social. Plusieurs changements ont été apportés et une vision plus épurée et plus proche des fidèles a émané de cela. Les églises qui furent construites par la suite ont alors connu un style beaucoup moins ostentatoire que celle du 19e siècle et du début du 20e siècle. Cette recherche de simplicité a frappé l'église Sainte-Madeleine lorsqu'on a décidé de recouvrir tous les murs et les plafonds d'une couche de peinture blanche qui a effacé du même coup l'œuvre de Guido Nincheri. Seul le tableau, Madeleine au pied de la croix, qui se trouve derrière le maître-autel, a été épargné. Fait intéressant. C'est la femme de Nincheri, Giulia, qui a servi de modèle pour la représentation de Madeleine. Le peintre a aussi utilisé ses enfants et ses neveux pour imaginer certains anges. Il a même offert son propre visage à Judas dans l'un de ses tableaux. Après avoir été dissimulé pendant 6 décennies sous une lamentable peinture qui hésite entre le blanc et le beige, voilà que certains tableaux de Guido Nincheri respireront de nouveau. Et cela devrait se faire en 3 mois. Des échafaudages ont été montés. Une première équipe s'affaire depuis fin janvier 2023 à nettoyer les surfaces. Des experts en restauration prendront le relais. C'est par un minutieux travail de grattage que les œuvres de Nincheri, protégées par un vernis, vont ressusciter. Pour le moment, 3 œuvres situées dans le transept nord-ouest ont été ciblées. La résurrection de Lazare, Jésus chez Marthe et Marie dans la région du Jourdain, de même que Saint-Antoine Daniel et Saint-Noël Chabanel. Les travaux de restauration sont évalués à environ 175 000 $. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, près de 135 000 $ ont été amassés. Il manque environ 40 000 $ pour compléter le budget. Pour atteindre cet objectif, Hubert Sassy a eu l'idée de créer une série de manifestations qui ont comme point commun de mettre en valeur la culture italienne. Du 25 février au 26 mars 2023, 5 événements bénéfices se dérouleront avec la collaboration de plusieurs partenaires, dont le Consulat général d'Italie. Ainsi, on profite de la présence du contre-ténor Luigi Schifano, qui sera de la distribution d'Ena Damar à l'Opéra de Montréal, pour organiser un récital qu'il offrira le 24 mars 2023 en compagnie de l'organiste Andrea Cohen. Un autre public préférera peut-être le spectacle du groupe florentin Tempo Real et Electroacoustique ensemble le 14 mars 2023. On le sait, le sort de notre patrimoine prend parfois des allures de films d'horreur. La protection de ces traces du passé, qui est le nôtre, a besoin de batailleurs comme Hubert Sassy. C'est grâce à eux qu'on arrive à pouvoir dire « Je me souviens ». Il ne reste qu'à souhaiter que les murs sur lesquels vont bientôt revivre les œuvres de Guido Nincheri restent debout encore longtemps. Ça, c'est une autre histoire. C'était « Des murs qui ressuscitent », un texte de Mario Girard paru le 9 février 2023 dans La Presse.
Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le D Magazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir. Arrivé tel un météore dans le paysage littéraire des années 1980, Christian Mistral a brillé avant de sombrer. Certains auteurs semblent immortels, d'autres sombrent dans l'oubli. Après un temps, qu'en reste-t-il? Dans sa série mensuelle « Faut-il relire ?», Le Devoir revisite un de ses écrivains avec l'aide d'admirateurs et d'observateurs attentifs. Aujourd'hui, Christian Mistral, 1964-2020, premier auteur québécois à y faire son entrée, lui dont la sienne fut fracassante dans le monde des lettres au milieu d'une décennie morose. Il a connu les salons du livre et les cellules de prison, celles de Parthenay et de Bordeaux, l'ivresse du succès et les migraines des lendemains de veille, l'étiquette d'enfant terrible puis celle de batteur de femmes. On le reconnaissait aussi à ses allures de dandy, son éternel chapeau bien rivé sur sa tête, ayant fait de la rue Saint-Denis son royaume, et certains bars, dont les Beaux Esprits, ses quartiers généraux. Christian Mistral ne souhaitait jamais passer inaperçu, du moins à l'époque de sa gloire lors de la publication de Vamp en 1988. Ce premier roman, écrit par un jeune homme de 23 ans qui n'avait guère flâné sur les bancs d'école et carburait déjà à l'alcool, a été reçu tout autant comme une bombe que comme un manifeste, celui de la génération X à laquelle Mistral s'identifiait totalement. Sans compter ses descriptions de Montréal qui, sous son regard, débordaient de sensualité, mais suintaient aussi le désespoir. L'écrivain, il faut le dire, était précoce en bien des domaines, lui qui avait publié, à compte d'auteur, son premier recueil de poésie à 14 ans, geste d'amour à l'égard d'une fille qui a préféré brûler son exemplaire. Marié à 16 ans, divorcé 2 ans plus tard, et devenu père entre les deux. Mistral aimait aussi beaucoup les nuits de Montréal, et sa toxicomanie n'était un secret pour personne. Si sa consommation posait problème, dont sur le plan financier, ses sautes d'humeur, elles, ont pris, bien avant sa mort, une dimension tristement légendaire. En effet, on ne compte plus les témoignages le décrivant à la fois d'une infidélité à toute épreuve en amitié et d'une arrogance dévastatrice dans ses plus mauvais jours. Certains ont vu aussi dans Vamp et tous les livres qui suivront Vautour, Vacuum, Valium, Léon, Coco et Mulligan, des autobiographies déguisées écrites avec un souffle romanesque parfois exceptionnel. Avant que les choses ne dérapent et que la justice ne le rattrape une fois de plus dans les années 1990, sa personnalité flamboyante ajoutait une grille d'analyse à une œuvre personnelle et foisonnante. Jean-Roch Boivin, ancien critique littéraire au Devoir et au Voir, récemment décédé, disait de lui qu'il se comporte dans la vie comme une réincarnation de Jean-Paul Sartre. Rien de moins. Une affaire de famille. Âgé de 81 ans et maintenant à la retraite, André Vanasse se souvient avec vivacité de sa rencontre avec Christian Mistral. Alors directeur littéraire chez Québec Amérique, il n'avait pas terminé le manuscrit de Vamp que déjà il pressait son auteur de le publier à son enseigne. Avec le succès que l'on sait, et les dérives qui ont suivi. Car celui qui était également professeur de littérature à l'UQAM et romancier, La saga des Lagacés, La vie à rebours, La flûte de Raffi, reconnaît qu'il avait avec Mistral une sorte de relation père-fils. En effet, le parolier de Soir de scotch, le grand succès de la chanteuse Luce Dufaux, noyait souvent sa peine de ne pas avoir connu son père biologique, une des nombreuses blessures que Mistral cachait tant bien que mal, et que ses comportements erratiques trahissaient souvent. « Je n'ai jamais eu peur des Christian Mistral de ce monde », clame André Vanasse, admettant tout de même qu'autant de Québec-Amérique comme chez XYZ, où il poursuivra son travail d'éditeur dès les années 1990, il lui en fit voir de toutes les couleurs. Ce que corrobore son fils, Alexandre Vanasse, éditeur de Lettres québécoises, impliqué très tôt aux côtés de son père dans le milieu littéraire. Je me souviens encore d'un appel de la secrétaire chez XYZ, complètement paniquée, pour que je m'interpose au plus vite entre Christian et André. Il ne se battait pas, mais ça criait allègrement. Se souvient celui qui est vite devenu le frère adoptif de Mistral. Quant au père de substitution, il demeure convaincu que Mistral ne l'aurait jamais frappé, tout en admettant qu'en vérité, ce qui l'a tué, c'est sa violence. Alors qu'il défrayait davantage la chronique judiciaire que littéraire dans les années 1990, Christian Mistral connaissait déjà les arcanes de la justice, reconnu coupable de fraude dès 1984, d'entrave et d'intrusion en 1989. Des faits d'armes que Louis Hamelin ignorait, lui qui l'a bien connu au moment de sa fulgurante ascension, qui coïncidait avec la sienne. Son premier roman, La Rage, publié en 1989 chez XYZ, lui vaudra le prix du gouverneur général et le respect de celui avec qui il partageait le même directeur littéraire, André Vanasse. À cette époque, les deux écrivains issus de la même génération et vite devenus ses chantres désenchantés se fréquentaient à l'occasion, au point où Mistral disait d'Hamelin qu'il était lui aussi son frère. Il cherchait son père, il se cherchait une famille, et enviait beaucoup la mienne, affirme celui qui est également chroniqueur au Devoir. Mais il prenait beaucoup de place, déplaçait beaucoup d'air, et nous n'avions pas la même vision de ce qu'est un écrivain. Moi, reclus dans sa cabane dans les bois, lui fasciné par des écrivains maudits comme Jack Kerouac ou Henry Miller. À un moment donné, ce n'était plus soutenable. J'ai dû m'éloigner pour préserver ma santé, tant physique que mentale. Au fond, c'était quelqu'un d'assez malheureux. Ça n'excuse rien, mais ça explique certaines choses. Légende ou étoile filante? Hamelin reconnaît toutefois qu'on ne pourra jamais enlever à Mistral son talent rare, éblouissant dans Vamp, bien affirmé dans Vautour, même si l'auteur de La constellation du lynx reconnaît qu'il existe deux camps retranchés. Certains vénèrent le premier livre, d'autres le second. J'ai relu des pages de Vamp avant notre entretien. Peu importe ce que l'on pense du personnage et de sa vie, c'est un classique de la littérature québécoise. À l'époque, ce livre fut pour moi un choc et a façonné l'écrivain que je suis devenue. Cette plume fulgurante et les concerts d'éloges qu'elle suscitait ont fini par, sans mauvais jeu de mots, enivré Christian Mistral. Son alliance avec André Vanasse fit un temps, les deux hommes ayant pris leur distance. Quant à Alexandre Vanasse, il n'avait jamais complètement coupé les ponts avec lui, le visitant à l'occasion dans son petit logement de la rue Rachel, où il finira ses jours. Se souvenant aussi bien d'un être nettement plus intelligent que la moyenne que d'un gars qui pouvait débarquer chez lui à 3 heures du matin après s'être battu dans un bar, il aurait bien aimé renouer avec lui sur le plan professionnel. Je lui ai proposé une chronique dans Lettres québécoises. La première, sur Gilles Vigneault, était magnifique, mais après, il nous donnait ses fonds de tiroir, réclamait sans cesse des avances, ça ne pouvait plus continuer. Une désinvolture à laquelle son père a aussi été confronté. Figure marquante de la littérature québécoise, certes, mais une figure marquante, ça doit travailler. Oui, il est devenu quelqu'un, mais ce n'était quand même pas Jésus-Christ. En entrevue à la presse en 1995, Christian Mistral pressentait déjà le rapport ambigu que l'on aura avec son œuvre et que sa disparition n'a pas complètement effacé. C'est peut-être mon seul objet de tristesse. J'ai toujours voulu que mes livres se défendent par eux-mêmes, qu'ils soient lus en dehors de la connaissance que l'on croit avoir de l'auteur. Est-ce que ce sera toujours possible? C'était Mistral gagnant, Mistral perdant, un texte d'André Lavoie, paru dans le D Magazine, édition 25 et 26 mars 2023, du journal Le Devoir.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Gilbert Lepage et Justine Langevin à la lecture, Francine Thériault et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.